Monsieur Marcel Hunda, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation actuelle après ce travail de nettoyage?
Chaque année, le ministre de l'Enseignement supérieur convoque trois commissions. Et donc, deux commissions pour les bourses extérieures de nos jeunes qui sont à l'étranger. La troisième commission, c'est pour l'Université de Bangui et les privés. À l'issue de ces travaux, nous avons abouti à ce résultat. C'est-à-dire que nous avons reçu 1230 dossiers à peu près. Ce qui concerne Afrique, Europe, Amérique et Asie. Au niveau de l'Afrique, nous avons enregistré 931 dossiers. Au niveau de l'Europe, nous avons enregistré 170 dossiers et Amérique, Asie, 29 dossiers. En ce qui concerne les accords au niveau de l'Afrique, on a attribué la bourse à 586 étudiants centrafricains à l'extérieur. En Europe, nous avons attribué 59 dossiers aux étudiants et Amérique, Asie, 4 dossiers. En ce qui concerne les rejets, au niveau de l'Afrique, nous avons rejeté 333 dossiers. Au niveau de l'Europe, 69 dossiers. Et au niveau de l'Amérique, Asie, 3 dossiers.
Quelles sont les causes structurelles de ce rejet?
Il y en a plusieurs. Premièrement, il y a ce qu'on appelle faux usage de faux. Il y a des étudiants qui ont terminé, qui ne veulent pas rentrer ou qui sont rentrés, mais qui continuent de faire le faux, de déposer le dossier pour percevoir la bourse. De deux, il y a des candidats qui déposent les faux papiers. D'abord, à partir du baccalauréat. Parfois, le baccalauréat est faux. Parfois, le baccalauréat est vrai, est bon, mais ils ont authentifié ça au quartier parce qu'ils ont fait dans la précipitation. Aussi, parfois, les étudiants ne s'inscrivent pas et ils montent des papiers comme ça et ils envoient. Et donc, nous, on a mis en place une plateforme pour vérifier tout ça. Déjà, ici, vous voyez le lot de dossiers qui sont là reliés. Ça, c'est ce qu'on appelle les décisions de baccalauréat de chaque année. Après la proclamation du baccalauréat, on va à la DEC, on prend le dossier, la décision, on photocopie pour nous permettre de faire ce travail-là. Au niveau de l'université, on a mis aussi une plateforme en place pour permettre à identifier ces faux papiers. Les étudiants qui ne poursuivent plus leurs études et qui prétendent toujours tenir la bourse, tout ça on vérifie via Internet et le résultat tombe. C'est ça qui nous permet justement de déceler ces faux.
Ces faux que vous avez décelés permettent aujourd'hui, par exemple, à la direction générale de bourse et stage de faire l'économie de combien et d'orienter ça sur combien d'étudiants pour pouvoir bénéficier de la possibilité d'étudier à l'extérieur.
Bon, à l'issue de ce travail-là, on n'a pas encore mis le montant. Hein. Ça, c'est le nombre déjà. Pour le moment, on va essayer de faire sortir le montant par étudiant. C'est le travail que le chef service de saisie est en train de faire. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que nous avons dégagé. Donc, c'est après son travail qu'on pourra voir. Et puis, c'est aussi difficile de dire qu'on va faire une petite économie par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on ne reconduit pas la bourse d'une manière tacite. On écrase tout. L'année dernière, on écrase tout. Aujourd'hui, on prend les nouveaux dossiers, on essaie de voir ça. C'est dingue. Et on étudie les dossiers aussi par rapport au quota, l'enveloppe que le gouvernement met à la disposition de la bourse.
On reproche beaucoup plus à la direction générale de bourse et des stages de privilégier les nantis, c'est-à-dire ceux qui sont beaucoup plus proches du soleil et d'abandonner les pauvres qui ont besoin de bénéficier de ces bourses pour pouvoir étudier et revenir travailler pour le pays. Quelle est la réponse que vous avez face à ces accusations que les uns et les autres formulent à l'endroit de la direction générale de bourses et des stages?
Vous avez soulevé un problème pertinent. Pertinent pourquoi? Parce que le plus souvent c'est ça. Quand il y a l'argent quelque part, ce sont les nantis, c'est-à-dire ceux qui ont un peu plus de moyens, qui pensent que c'est à eux de bénéficier de ça. Depuis que j'ai pris service, j'ai essayé de changer un peu le mécanisme. Déjà au niveau de Bangui, avant les étudiants venaient déposer les dossiers ici, directement à la direction générale de bourse. Or, quand j'ai pris service, j'ai dit non, on ne va plus continuer comme ça. Donc, j'ai convoqué les vice-doyens et les directeurs des études. On a tenu une réunion. À l'issue de cette réunion, je leur ai dit désormais, la responsabilité d'étudier les dossiers leur revient. Quand l'étudiant vient ici retirer son formulaire, il prépare le dossier, il dépose là-bas, dans son établissement. Et donc, c'est le vice-doyen avec les chefs de département ou bien le directeur des études avec les chefs de département qui traitent les dossiers. Parce que dans le dossier, il faut verser le relevé de notes. Il faut voir si l'étudiant est régulièrement inscrit. C'est à eux de vérifier ça, pas nous. Ils connaissent leurs études. Ils vérifient tout ça là et eux, ils dressent la liste avec un soi transmis. C'est à eux de venir déposer ça ici. Voilà le premier mécanisme pour empêcher ceux, les fraudeurs et tout et tout. Et les parents qui quittent là-bas, qui viennent imposer leur dossier. Ça ne va plus. Pourquoi? Parce que quand on ne voit pas la liste, signé par un doyen ou un vice-doyen ou un directeur des études, nous, on ne prend plus. Deux, au niveau de l'extérieur, j'ai essayé de mettre en place une plateforme avec certains étudiants qui sont là-bas pour me donner la liste de ceux qui sont véritablement sur le terrain et qui sont des étudiants régulièrement inscrits. Donc, j'ai fait ça avec la Chine, j'ai fait ça avec le Cameroun, j'ai fait ça avec la Russie. Mais en France, je n'ai pas trouvé un étudiant qui peut me servir de courroie de transmission. Voilà, mais on continue. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Ça, c'est pour vous expliquer la nouvelle procédure mise en place. Deuxièmement, pour répondre à votre question, c'est vrai, ça ne manque pas. Hein. Ça ne manque pas depuis que je suis là. Les responsables pensent que la direction générale de Bourse tourne autour de la personne même du directeur général. Donc, ils viennent directement voir le directeur général pour prendre le dossier. Je leur ai dit non. Il y a le service. Il y a le chef service de Bourse. Il y a le directeur de Bourse. Chacun joue son rôle. Si c'était pour donner la bourse, attribuer la bourse aux enfants des ministres, des partis politiques, mais je ne serai pas là aujourd'hui, DG. Vous voyez ? Donc, j'ai étudié dans des conditions difficiles et j'ai bénéficié de la bourse pour aller à l'extérieur, étudier et revenir. Aujourd'hui, j'occupe ce poste-là. Donc, je ne peux pas m'hasarder à dire que, bon, voilà, c'est une telle catégorie qui doit bénéficier de la bourse. Mais comme vous avez dit, ceux qui n'ont pas leur père, on va les mettre où ? Ce sont des centrafricains. Comme ça.
Mais en remettant ça à la disposition ou encore à la validation de vos collaborateurs qui sont les douaniers ou les vice-douaniers, connaissant Bangui, il y a aussi le poids de collaboration ou encore de copinage. Est-ce que vous avez mis aussi des garde-fous nécessaires pour échapper à ce pratique d'affinité déjà au niveau de l'université jusqu'ici au niveau de votre direction générale?
Ah non, non, non. Je suis encore enseignant du supérieur. J'ai été vice-doyen, chef de département, vice-doyen. Et de là, on m'a nommé ici. Non, les gens font du travail là-bas. Il ne faut pas cracher sur ce qui se passe à l'université.
Monsieur le directeur général, beaucoup des idées fusent pour que, au niveau de la direction générale, on puisse identifier des personnes faisant des formations spécifiques et orienter beaucoup plus ces bourses-là comme un investissement dans les personnes ressources susceptibles demain d'aider dans les disciplines qui manquent réellement à la République centrafricaine. Quel est le travail que vous faites ici pour pouvoir aider la République centrafricaine à disposer des cadres dans des domaines précis au lieu d'envoyer des étudiants faire des études généralistes et qui finalement perdent en conjecture et restent dans les pays d'accueil?
Je crois qu'à l'issue de la première commission, on s'est focalisé sur cet aspect-là. Vous voyez, on prend un jeune étudiant ici, on l'envoie à l'extérieur pour faire logistique. On prend un enfant ici, la logistique, formation de la logistique se passe ici déjà 6 mois, 1 an. Mais on envoie un enfant à l'extérieur pour faire ça. Quel est l'apport? Qu'est-ce que le gouvernement va attendre de cette formation? Rien. On prend un centrafricain ici, on envoie à l'extérieur pour faire banque finance. Or, ici, tous les privés font ça. Quel est ce que le gouvernement va gagner là? Le pays va gagner là-dedans? Il n'y a rien. Et donc, on s'est entendu pour dire que désormais, ces dossiers-là, on a retenu des termes là-bas, filière non prioritaire pour le pays. On met ça purement simplement de côté, parce que ça n'apporte rien. Donc, on cible les formations prioritaires, par exemple, agronomie, médecine, dans les filières vraiment scientifiques, mine et géologie, pétrole, et tout ça, oui, parce que ce sont des formations d'avenir.
Monsieur Marcel Hunda, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.